Voilà, donc une joie d'être avec vous aujourd'hui. J'étais là aussi hier. Juste une page de publicité. Donc il y a un livre comme ça au bout là qui est Un cri en faveur de la justice. On en évoquera deux mots. C'est moi qui l'ai écrit. Il paraît qu'il faut que je précise parce que la tête ne me ressemble pas. C'est moi plus vieux. Non, c'est une blague. Donc ça, c'est un prix RNC, donc c'est 6 euros au lieu de 8. Et un petit livret sur les noms de Dieu, ça c'est 4 euros. Malheureusement, ça coûte presque proportionnellement plus cher. Mais ça, c'est des problèmes des photocopies reliées. Voilà, donc c'est 6 et pas 8 comme c'est écrit. Hein. C'est pas comme le port salut. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, quelques éléments sur l'Église missionnelle. Et ce que ça veut dire et ce que ça ne veut pas dire. Et du coup, voilà, on va essayer de cheminer dans cette matinée, puis pour les courageux cet après-midi. Et comme ça, on peut poser des jalons pour que vous puissiez continuer de réfléchir et de positionner des choses ou pas. C'est normal, ça saute comme ça. C'est les caprices de la technologie. Bon. Du coup, j'ai oublié de prendre ma télécommande. Ouais, je suis à côté, ça va aller. Donc, on va forcément impossible de dire tout ce qu'est une église missionnelle. C'est juste impossible. D'abord parce que le sujet est trop vaste. Et en plus, parce que vous n'avez peut-être probablement pas le socle, enfin le fond, l'arrière-plan nécessaire pour cela. Alors justement, on va parler du socle, sur quoi on fonde l'église missionnelle. Alors, il ne vous a pas échappé qu'on avait un commandement 1 et 1 bis que vous connaissez par cœur. Tu aimeras Dieu seulement avec ton esprit. Ah, vous avez cette version-là, vous ? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton, de toute ta, yes, et de toute ton énergie physique ou de toute ta force physique, comme tu veux, c'est pareil. Donc, esprit, âme, corps, et Marc rajoute la pensée, l'intelligence. L'intelligence qui est une connexion entre l'esprit, il y a l'intelligence de l'âme et l'intelligence de l'esprit, et donc on ne peut pas séparer. D'ailleurs, il y a un verset qui dit qu'on ne peut pas séparer jointure et moelle, esprit et âme. Donc, on rentre dans des complexités qui nous dépassent, mais bien, on veut adorer Dieu et on veut aimer Dieu, esprit, âme, corps, puisqu'on est un être global, on n'adore pas Dieu avec notre esprit seulement. Bon, il y en a qui font des études en art, je ne sais pas à quoi ça sert, mais pour utiliser son corps, ses mains... Non. Donc même si on n'est pas tous des artistes, et heureusement qu'il y en a qui le font, même si on n'est pas tous des artistes, on utilise tous notre corps. Amen. Alors, je vous préviens, si vous ne me connaissez pas, j'ai un peu d'humour. Il y en a qui trouvent que ce n'est pas bien. Moi, je vous conseille de... Avec quelqu'un comme moi, vaut mieux qu'il y ait un peu d'humour parce que j'envoie quelques scuds en général dans mes prédications, quelques petites provocations... Et avec un peu de rire, ça passe mieux. Voilà, ça explique ceci expliquant cela. Donc, du coup, on doit aimer Dieu avec tout notre être. Et quelquefois, dans nos milieux chrétiens, on se gargarise d'aimer Dieu en esprit et en vérité. Et du coup, comme il faut adorer Dieu en esprit et en vérité, on considère que si c'est juste inside, ça suffit. Si c'est juste à l'intérieur, ça suffit. Et non, Dieu attend tout notre être. Il y a même un verset qui dit qu'on doit rendre notre esprit, notre âme et notre corps irrépréhensibles. Donc, on doit sanctifier notre corps aussi. Et donc, quand vous adorez Dieu, quand nous adorons Dieu avec notre corps aussi, c'est comme si on déclare à Dieu, aux autorités invisibles et aussi aux autres autour de nous et à nous-mêmes que notre corps est aussi impliqué dans l'aventure. On va parler l'allemand à la fin. Donc, le royaume de Dieu... C'est la base. Et la base du royaume de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour, chez Dieu, ça se voit toujours. Et c'est pour ça aussi que quand j'adore Dieu, ok, je peux avoir des moments où c'est très inside, où je suis calme, c'est tout à l'intérieur, mais il y a quand même des moments où on l'exprime. Je dis souvent, bon, il y a des enfants, mais... pas trop. Je dis souvent... Non, c'est des enfants qui n'ont pas les oreilles pour écouter, ça va. Je dis souvent qu'un homme et une femme qui s'aiment, quand bien même ils seraient introvertis, et très pudique, il y a un moment où il y a crac-crac dans le lit. Donc quand Dieu nous dit de l'aimer avec son corps, c'est parce qu'il souhaite qu'on soit tout notre être ciblé sur lui, centré sur lui. Et donc, adorer Dieu avec son corps, ce n'est pas une option chez Dieu. C'est peut-être une option chez les chrétiens, mais chez Dieu, non. Et en fait, quand j'adore Dieu avec mon corps, je lui permets de me sanctifier. Et donc, si je dis que j'aime Dieu, que je ne vois pas et que je n'aime pas les gens, on pourrait dire la même chose sur l'adoration. Si je dis que j'adore Dieu, mais que ça ne se voit pas physiquement et que les autres ne le voient pas, alors peut-être on se pose la question de, mais au fait, est-ce qu'il adore ou est-ce qu'elle adore Dieu ? Et ça interpelle tout notre être. Bon, ce n'est pas la prédication du jour, hein, le corps. Mais ça peut être pas mal. Peut-être qu'on aurait moins de complexe d'infériorité ou de supériorité si on adorait davantage avec notre corps. Peut-être qu'on aurait moins d'addiction si on adorait Dieu davantage avec notre corps. Parce que toutes les fois on adore Dieu avec notre corps, on le place sous l'autorité de la puissance de Dieu. Et donc ça lui permet d'agir dans notre corps. Et merci à tous ceux qui travaillent avec leurs mains ou avec leur corps, que ce soit de façon artistique, artisanale ou quoi que ce soit, pour dire aussi que Dieu est glorifié par nos mains. Et je rappelle en passant que le baptême n'est pas spirituel. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il est physique. Hein, c'est ton corps qui est plongé dans l'eau, c'est pas juste ton esprit. Voilà, ça a du sens. On est sauvé comment ? On est sauvé quand on croit. Romains 10, 10, ça vous dit quelque chose, ça ? Celui qui croit de son cœur, dans son cœur, et qui confesse de sa bouche. La bouche et le corps. Hein. La bouche est le lien entre la langue, là, quand tu utilises les mots, quand il y a du son qui sort, c'est le corps. Et d'ailleurs, des fois, on a du mal à aimer sa voix. Peut-être aussi que si on chante pour Dieu, c'est aussi pour ça. Et donc, c'est une façon d'utiliser tout son être pour Dieu. Mais ça va, ce n'est pas le sujet. Donc, on aime Dieu. Et justement, les mains sont utilisées là pour montrer aussi que c'est avec quelque chose de physique. Ce n'est pas qu'en esprit, on n'est pas désincarné. Hein. Il n'y a pas l'esprit qui est édifié le dimanche matin, puis le reste de la semaine où il faut manger, travailler avec le corps. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Mais il y a quand même les pasteurs qui, eux, font que du spirituel tout le temps. Non. Ah, ça va pas, René, tu tousses ? Ah, ça c'est la Belgique. Hein. Ça c'est la Belgique. Hein. Donc on aime Dieu et il y a un sens vers lui, d'où les mains vers le ciel. Et le fait d'avoir les mains, on n'est pas obligé d'adorer Dieu comme ça. Hein, on n'a pas d'obligation, d'ailleurs avec un style de façon d'utiliser nos mains. Mais c'est juste pour dire, voilà, je donne tout à Dieu et je dépends de Dieu. C'est la symbolique souvent de la prière, même chez les chrétiens, d'avoir les mains jointes, c'est je dépends de Dieu et je me livre à Dieu. Et donc la base du royaume, c'est Dieu. C'est Dieu qui est là au centre. Mais on est aussi là pour aimer les frères. Pas tous. Il y en a qu'on aime mieux que les autres parce qu'il y en a des moins bien que les autres. Ça arrive. J'ai cru que c'était René qui parlait. Ça venait de là, j'ai pas bien... J'ai un problème avec l'oreille. C'est mon sœur. Ah oui, c'est ta sœur, c'est ça. Et oui, il y a des fois où ça passe un peu moins bien, hein, c'est un peu plus compliqué. Il y a des périodes, des fois dans les vies d'église, comme ça, on ne sait pas pourquoi, il y a des périodes plus compliquées et c'est un peu plus compliqué d'aimer les autres. Mais, parce qu'on veut obéir à notre roi, puisqu'on est dans un royaume, tu sais, Jésus n'est pas juste notre sauveur, il est aussi notre Seigneur. Et puis, il est notre roi. Et donc, ça commande un citoyen à l'obéissance. Donc, on aime ses frères, même si des fois... voilà, ça coince. Mais c'est un choix qu'on fait. Et puis, on doit aimer jusqu'à nos ennemis. C'est ça le royaume de Dieu. Donc, on aime jusqu'à nos ennemis. Jusqu'à nos ennemis, ça veut dire que même si j'en avais, ou s'il y a des moments où j'en ai, parce qu'on n'en a pas tout le temps, heureusement, en tout cas, je dois les aimer. Alors, l'amour chez les chrétiens, en tout cas évangéliques français, c'est souvent un amour affect, presque conceptuel. Mais ça, c'est l'amour grec. L'amour hébraïque, ça passe par une action toujours. Toujours. Quelqu'un qui dit qu'il aime quelqu'un d'autre, ça se voit physiquement. Et on pourrait parler des parents avec leurs enfants. Si tu as eu des parents et que tu n'as jamais eu de cadeau, ça fait un peu mal, ça pique. Je ne parle pas du cadeau occidental, hein. Je parle juste du cadeau de bénir un enfant, pas forcément à l'anniversaire ou à Noël. C'est juste, est-ce que les parents témoignent quelque chose de physique à leur enfant ? Et donc, on doit dire à ses enfants, enfin, en tout cas, ce serait bien de dire « je t'aime » à ses enfants. Et c'est bien aussi de faire des cadeaux. Bon, j'ai l'air d'être bizarre ici. Il y a des parents qui ont fait des cadeaux des fois à leurs enfants ici. Non, non, je voudrais me rassurer en fait. Ok. J'ai eu un peu de stress. Florence, t'as déjà eu des cadeaux, rassure-moi. Ok, ça va. Donc, l'acte physique accompagne aussi. Donc, si on dit qu'on aime, et on redira un verset qui dit que aimer avec les paroles, c'est bien, aimer en action, c'est mieux. Alors, c'est pas dit comme ça, mais c'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean, notamment, mais aussi dans Jacques. Jacques a dit, aime avec des paroles, mais pas seulement. Passe aux actes. Vous connaissez Jacques a dit, hein, ça va, on a le même jeu d'enfance, à peu près. Ok. Donc Jacques a dit d'aimer, donc on doit le faire. Et il a dit en parole. La deuxième chose, c'est que, oui, on cherche le royaume de Dieu, mais on cherche le royaume de Dieu et sa justice. Alors en attendant de parler de justice, on va redire la même chose qu'on vient de dire sur l'amour, mais en redisant qui est concerné. Donc, aimer Dieu, ça concerne Dieu et donc la centralité de ma vie. Dieu est au centre de ma vie. Et donc, de tout le reste dont on va parler dans cette église missionnelle, ça n'a aucun sens si on ne repose pas que Dieu est Dieu et qu'on lui obéit et qu'on l'aime. Ça n'a plus de sens. Ou alors on part en cacahuète. On part dans tous les sens. Ou on interprète comme il nous semble bon sans replacer Dieu au centre. Donc Dieu est bien au centre de ma vie. Il est au centre de ma vie d'église. Et donc le royaume de Dieu, ça comprend la spiritualité, mais pas que. Et ce n'est pas une insulte à Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il faut prier avant toute chose. Vous avez ce verset aussi dans votre Bible ou il n'y a que moi qui l'ai? Paul dit à Timothée, avant toute chose, prie. Ça sous-entend donc qu'il y a plein de choses d'autres à faire que la prière. Et c'est Dieu qui l'a voulu. Donc ce n'est pas insulter de Dieu que de dire, si tu n'as que la centralité, s'il n'y a que Dieu dans ta vie, ce n'est pas le royaume de Dieu. Puisque le royaume de Dieu, c'est Dieu qui a créé la terre. Oui? C'est Dieu qui a créé les humains. Oui? Sinon, tu peux dire amen, ya. Ya. C'est Dieu. Donc si Dieu a créé l'être humain, si Dieu a créé la terre, si Dieu a créé la matière, on ne peut pas insulter la matière. La matière fait partie du royaume de Dieu. Et je rappelle que dans le ciel, dans l'éternité, pas le ciel que nous on pense, hein, quand tu regardes là-haut, sinon les Australiens, ils auraient un problème. Donc on ne parle pas du ciel qu'on voit, hein, on parle de l'éternité qui nous dépasse et qu'on ne comprend pas. Donc quand on sera dans l'éternité, il y aura toujours des choses visibles. La matière, c'est Dieu qui l'a inventée. Il a inventé la matière. Et quand Jésus est ressuscité, il revient quand même avec un corps qui traverse les murs. Ça, c'est extra. Moi, je voudrais être là. T'imagines un peu là? Il est là, il n'est plus là. Mais la porte est restée fermée. Waouh! Oui, il y a un côté amazing chez Dieu, non? Des fois, on a l'impression, quand on entend les chrétiens ou quand on vient à church, quand on vient à l'église, des fois, on se dit « Wow !» Mais Dieu est le Dieu qui a créé la vie. C'est lui qui a créé la couleur. C'est lui qui a créé la diversité. C'est même lui qui a créé l'humour. Quel humour il faut pour dire aux hommes qui sont couvrés avec lui, franchement. Quel humour il faut aussi pour choisir les disciples que Jésus a choisis, franchement. Moi, je lui aurais bien proposé un cabinet de recrutement qui aurait mieux fait le travail. On ne dit pas les noms, je ne suis pas financé, donc je ne dis pas les noms. Mais on en connaît. Il y a les Mac, Aroni, voilà, tu vois, il y a tout ça. Ouais. En tout cas, Dieu aime l'homme et il aime l'homme dans sa diversité. C'est Dieu qui a créé. Tout ce qui est bon vient de Dieu. C'est le diable qui déforme, qui casse, qui abîme, qui détruit. L'argent n'est pas sale. C'est Dieu qui a inventé l'argent. C'est Dieu qui a l'or et l'argent dans sa caisse. Allô, allô? C'est Dieu qui a l'or et l'argent, c'est pas les hommes. Ah mais Luc, il ne faut pas parler de business. Ah bon? Et pourquoi? Si, si, il faut parler de business. Mais du business selon les valeurs du royaume. Eh oui, et donc il y a plein de choses à faire là dans ce pays, pour ça. En Belgique aussi, une fois. Oui, 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 je sais d'où René vient. Hein, mais je sais par où il passe pour aller chez lui. Et c'est ça le problème. Non, 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 je sais très bien d'où vient René. Il vient du pays qui pratique la sociocratie et qui est inscrit dans la loi. Donc, je sais très bien d'où il vient. Mais je parle bien de la Belgique pour du vrai. Et il sait pourquoi. Ok, une fois. Et donc, on cherche le royaume de Dieu et sa justice. Quelquefois, les chrétiens évangéliques s'arrêtent à le royaume de Dieu. Et on entend parler du royaume de Dieu, et on entend parler du royaume de Dieu, et on entend parler du royaume de Dieu. Et les amis, il ne faut pas oublier la justice, puisque c'est dans la même logique. Le royaume de Dieu, oui, et la justice avec, aussi. C'est la base, c'est le socle, et il n'y a pas d'autre base. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui dit « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice ». Attends, pas si vite pour la photo, c'est pas fini, il n'y a pas encore tout. Donc c'est Dieu qui nous a donné, qui nous a dit de chercher le royaume. C'est, le mot « chercher », c'est mettre toute son énergie. Toi, genre, quand on regarde les séries, quoi, t'es prêt à regarder pendant un week-end entier une série ? Eh frère, sérieux ? Un week-end, s'il le faut, une semaine, pour regarder une série, tellement t'es fan. Mais une heure à l'église le dimanche matin, c'est long. Chercher le royaume de Dieu, ça veut dire je mets mon énergie dedans en premier. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Après, tu peux t'occuper du reste. Alors, je vais poser une question un peu provocante à laquelle je ne demande pas de répondre, et c'est votre affaire devant Dieu. Mais je voudrais savoir combien. Enfin, je voudrais savoir. Non, je ne veux pas de réponse. Ne me répondez pas. Ni avec des signes, ni des prodiges, ni des paroles. C'est combien de temps tu cherches Dieu ? Je ne parle pas d'aller à l'église. Combien de temps tu... Je vais le faire autrement. Combien de temps je cherche Dieu ? Et du coup, c'est quoi le socle solide de ma vie ? Ça, c'est une question de fond. Et si je dis que je cherche le royaume, alors la justice ne peut pas être dissociée à aucune condition, sous aucune condition. Je cherche le royaume et sa justice. Alors, il y a trois choses, comme précédemment. Il y a la justice légale. Ça, c'est une fois pour toutes. Jésus a donné sa vie à la croix et il l'a donnée que pour moi. Non, mais je veux savoir si vous dormez ou si vous êtes là. Je veux savoir si vous êtes là. Bon, quelques-uns sont là. Donc, Dieu, Jésus a donné sa vie pour quelques-uns d'entre vous ici. Ah, ça va, je sens une rébellion monter. Vous avez raison, des fois, il faut contester et c'est légitime. Donc, Dieu nous a donné sa vie. Et le jour où j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, Seigneur et Sauveur ou Sauveur et Seigneur, comme vous voulez, mais c'est pas seulement Sauveur, en tout cas. Alors ce jour-là, Jésus devient le maître de ma vie et je suis blanchi. Définitivement. Je suis relaxé. C'est top. Je n'ai même pas besoin de passer par 10 ans de prison. Mais c'est énorme, n'empêche. Parce qu'on est digne de passer devant un tribunal pour toutes les bêtises que l'on fait et pour toutes les bonnes choses qu'on ne fait pas. Parce que je rappelle que le péché... C'est pas juste faire le mal. Le péché, c'est ne pas atteindre la cible. Le péché, c'est ne pas faire le bien qu'on devrait faire. Tant, 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 vous avez un nouveau message. Le péché est trop vite vu comme quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je regrette chez Jésus. Le péché, c'est le bien que tu devrais faire et que tu ne fais pas. Bon, je vais le dire autrement. C'est le bien que je devrais faire et que je ne fais pas. Comme ça, vous ne vous sentez pas... Parce qu'il n'y a pas de volonté de culpabiliser, juste de nous interpeller. Et les gens comme moi ne font jamais des prédications tranquilles. Ce n'est pas mon métier. Bon, si vous préférez, ce n'est pas mon ministère. Bon, c'est le même mot. Donc, ce n'est pas mon métier d'être doux, gentil, dans le sens du poil. Et il le faut dans les églises aussi. Mais ce n'est pas le mien. Donc, moi, je ne le fais pas. Et je ne fais pas non plus le SAV. Je ne fais pas le service après-vente. C'est facile, hein, hein. Je le fais dans mon église, pas là où je suis en déplacement. Ce n'est pas mon job. Mon job, c'est de vous interpeller et c'est de vous piquer un petit peu pour faire bouger les choses. C'est le rôle du ministère des prophètes. Le ministère des prophètes, ce n'est pas de donner des prophéties, les gars. Ça, tout le monde doit le faire. Yeah. Merci. Tout le monde doit le faire. Vous devez aspirer à tous les dons et surtout à celui de la prophétie. C'est écrit dans quoi? Dans Genèse? Ah non, c'est pas dans Genèse. Ah, c'est dans Corinthiens, c'est vrai. On doit tous prophétiser. Donc c'est pas spécifique aux prophètes. On ne reconnaît pas un prophète parce qu'il prophétise. Ah, mais pas du tout. Mais non. Et des fois, on a des gens qui prophétisent beaucoup et bien, et on les a nommés prophètes parce qu'ils prophétisaient beaucoup et bien. Eh ben non. Non, un prophète, c'est un ministère de gouvernant, de gouvernance. C'est pas... Il peut prophétiser aussi. Mais un prophète, par contre, il gouverne et il vient rappeler la loi et les prophètes. Et donc, il rappelle la justice. Donc, la justice légale, c'est une fois pour toutes. Ensuite, il y a la justice morale. Morale pour avoir la même moralité que le royaume. Donc, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Ce gros mot-là qu'on entend beaucoup moins dans nos églises que dans les années 70 ou 80. Mais la sanctification est toujours nécessaire. Donc, je vais de gloire en gloire, je vais de mieux en mieux, je progresse. Bon, pas moi, moi j'étais parfait à la naissance, donc je ne suis pas concerné. Je parle pour vous. Donc, on progresse de gloire en gloire. Et donc, on a encore des choses qui doivent être changées. On a encore des failles. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la peine de faire semblant de ne plus en avoir. Je suis comme je suis au moment où je parle. J'espère être moins bien que demain. Mais j'espère être mieux qu'hier. Vous m'avez suivi? Il espère être moins bien que demain. Bah oui, il espère que demain il sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc oui, c'est dans ce sens-là. Et on espère, parce que et on travaille à ça. Et la Bible dit, on doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Ouais, c'est ça la sanctification. Ah non, mais je suis sauvé une fois pour toutes, moi. Je suis comme je suis. Non, je suis sauvé et je dois progresser. Donc, à la différence de la justice légale, qui est une fois pour toutes, définitive, la justice morale, c'est toute ma life, toute ma vie. Et ça progresse, et il faut espérer que ça progresse pour tous, et qu'il ne faut pas attendre 20 ans pour avoir fait un progrès. Ce serait bien qu'on progresse un peu plus qu'une fois tous les 20 ans ou tous les 10 ans. Et puis le dernier, c'est la justice sociale. Et donc, peut-être vous pensez que c'est une interprétation à la macaroni, à la maroni, mais non. C'est le sens, tous les mots hébreux ou grecs, araméens si vous préférez, tous les mots de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour le mot justice ont tous au moins trois sens, et ce sont ces trois sens-là. Certains en ont quatre et d'autres cinq. Mais tous ont ce socle-là de ces trois interprétations, enfin ce n'est pas des interprétations, ces trois traductions, justice légale, justice morale, justice sociale. Le problème, c'est que quelquefois dans nos milieux, on choisit l'un. Donc si on ne fait que la justice légale, on devient légaliste. Vous êtes presque un bon public. Si on ne fait que la morale, on devient mora. Et le dernier, on devient socia. Mais vous votez où vous voulez, hein, y a pas de message subliminal. Est-ce que je dois m'occuper des plus fragiles? Non. Ils ont qu'à bosser. Non, on va laisser ça à droite. Est-ce qu'il faut les assistaner? Non, on laisse ça à gauche. Mais le royaume, il n'est ni de gauche, ni de droite. T'es partisan de Zemmour, de Mélenchon, de Macron? Mais t'as cru quoi? Tu crois que tu peux te permettre d'être militant de quelqu'un qui n'est pas de Jésus? Mais les amis, on est militant du royaume, pas des gens. S'il vous plaît, s'il nous plaît, dans ce délire dans lequel on se trouve dans notre nation en ce moment, j'ai jamais entendu autant de chrétiens prendre parti qu'aujourd'hui. Ça me sidère. Je vous avoue, ça me sidère. Nous sommes partisans du royaume. Nous n'avons pas de parti pris à prendre pour les hommes et les femmes. Tu as des convictions politiques, c'est tant mieux. Tu votes à droite, tu votes au centre ou à gauche, c'est tant mieux. Ça n'est pas un sujet. Et nous devons parler politique dans les églises, non pas dans le sens de politiser nos discours, mais dans le sens de dire que nous sommes des citoyens du royaume. Et notre job, c'est de militer pour le royaume. Amen. Et je ne sais pas si vous prenez parti, mais si jamais vous l'avez fait, je vous invite instamment à limiter vos partis pris, parce que ce ne sont que des hommes et des femmes. Et la vérité, il n'y en a pas un qui sert Dieu là-dedans. Et tous respectent et tous méritent notre respect. Qui que soit qui sera élu mérite notre respect comme celui qui l'est actuellement. T'es d'accord avec lui, t'es pas d'accord avec lui, t'es d'accord de temps en temps, t'es jamais d'accord, t'es tout le temps d'accord, c'est pas un sujet. Tu pries pour lui, point barre, parce que Dieu a demandé qu'on prie pour nos autorités et qu'on les porte et parce que notre foi en dépend. Quoi? What? Et si, dans Paul à Timothée, quand il dit avant toute chose prier pour les hommes, il dit aussi prier pour les autorités. Et il dit parce que votre piété en dépend. Waouh ! Piété, c'est quoi ? C'est l'attachement à Dieu. Mon attachement à Dieu dépend de la façon dont je prie pour les hommes en autorité ? Bon, on ne me l'avait pas dit. Ben, faut s'en rappeler. Donc, je prie pour les autorités parce que mon bonheur en dépend. Ma piété et ma paix, le verset suivant, c'est la paix. Donc, ma piété et ma paix, paix, shalom, mon bonheur aussi. Donc, mon bonheur dépend de ma façon de m'impliquer dans la cité et de prier pour les hommes et les femmes politiques. Si c'est madame un tel qui est élu, eh ben, faudra prier davantage pour madame chose. Si c'est monsieur, faudra prier pour monsieur chose. Toi, on n'est pas partisans. Et tu votes pour qui tu veux pourtant. C'est la liberté de conscience et de choix dans l'urne. Mais sinon, tu peux toujours émettre des avis, mais attention au militantisme. Ce serait mieux de militer pour le royaume de Dieu. Ce serait beaucoup mieux. Ce serait nettement beaucoup, beaucoup mieux. Ce serait nettement, beaucoup mieux. Ce serait plus constructif et là, on serait différent. Quand on milite pour un candidat, on est comme les autres. Et ça, c'est pas ce que Dieu nous a demandé. Mais Luc, c'est pas le sujet. Oui, t'as raison. Allez, on continue. Donc, on n'est ni légaliste, ni moraliste, ni socialiste. On est juste centré sur le royaume de Dieu. On est juste en train de dire, les pauvres, et pas, le mot n'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, les pauvres, les gens en situation de difficulté, les gens en précarité, en toute précarité, toute forme de précarité, on doit les accueillir, les aimer, pas les assistaner. On ne fait pas de l'assistanat à la gauche et on ne fait pas non plus du rejet à la droite. D'accord ? D'accord ? Ya ! Allez, on avance donc sur, après avoir posé ce socle, il y aurait d'autres choses à dire et il faudrait un peu plus en dire, mais le temps est compté. Donc, il me reste seulement 4 heures, donc je... Bah, c'était pas le deal. On a le temps, we have time. Donc, dans l'église missionnelle, on parle de 6 axes fondateurs, 6 axes fondamentaux. On peut en ajouter, c'est pas gênant, il n'y a pas d'absolu, mais en tout cas, c'est 6 axes majeurs. Et donc, d'emblée, je vous le dis, une église missionnelle ne peut pas être franchisée. C'est-à-dire, elle ne copie pas un style d'église d'une voisine. L'église missionnelle, c'est une église qui est constituée des disciples d'un même endroit. Si vous lisez l'Apocalypse, mot que je déteste, si vous lisez le livre de la Révélation, puisque c'est normalement le titre de ce livre, donc si on lit le livre des Révélations, il y a une adresse à plusieurs églises. Vous vous rappelez ? Et on sent bien que ce ne sont pas les mêmes identités. On sent bien qu'ils n'ont pas les mêmes failles et les mêmes qualités. Heureusement, il y en a aussi. Donc, chaque église a son identité. Donc, on ne fait pas d'église franchisée. Ça n'existe pas. On n'a pas d'église McDo. Tu vois ? Le steak cuit toujours au même cuisson, toujours prêt entre la même, le même bacon et les mêmes oignons. Non, on a le droit de mettre le bacon par-dessus. On a le droit de mettre les oignons en dehors. Tu fais comme tu veux. Mais les ingrédients, c'est les 6 axes qu'on va voir là aujourd'hui. Enfin, là maintenant. Donc forcément, on rappelle qu'on est centré sur Dieu. Hein, il ne s'agit pas de faire juste « Oh, ben, je fais comme je veux, j'aime bien faire ce que j'ai envie, mes émotions sont positives, je vais faire quelque chose de positif, demain, elles sont négatives, ben, je ferai autrement. » Non, non, on n'est pas des émotifs. On a le droit d'utiliser nos émotions, mais nos émotions ne sont pas notre socle. Nos émotions ne sont pas notre repère. Et donc, moi, j'aime que nos églises charismatiques aient libéré finalement les émotions. C'est nécessaire. Et on en a besoin, et franchement, loin de moi de vous donner l'idée que je déprécie ça. Je crois vraiment que les émotions sont fondamentales et nécessaires. C'est important de pleurer, c'est important de rire, c'est important d'être à l'aise, c'est important de pouvoir danser, c'est important de pouvoir utiliser des bannières, bon, si on sait le faire. C'est important de faire toutes ces choses-là. C'est important. Mais ce ne sont pas les émotions qui doivent nous diriger. Ce qui doit nous diriger, c'est les commandements de Dieu. Et donc le socle de ce qu'on vient de dire, et on pourrait dire d'autres choses bien évidemment, c'est un raccourci. Mais on est bien centré sur Dieu. Et je rappelle ici que Dieu, ce n'est pas juste une histoire d'amour. Ah si, 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 Luc, premier commandement. Je rappelle que quand il nomme ses disciples Jésus, c'est pour des relations et une mission. Et c'est indissociable l'un de l'autre. Il n'y a pas de mission sans relation chez Dieu, et il n'y a pas de relation qui soit vide. Il y a toujours une mission avec. Et donc, dans une église, il faut trouver les deux. Bon, t'aimes pas René, bah c'est bien. Hein ? Ouais, voilà, quoi ? Quoi ? Il y a quelqu'un qui te défend, regarde. Voilà, c'est du côté des Schmitt. Ah, oh, c'est beau. Là, il y en a deux. Bon, il y en a trois. Il y a trois personnes qui t'aiment, René. T'as pas tout perdu. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. En pourcentage, ça peut faire gagner une élection. Hein. Non, mais ça, on s'aime. Mais l'amour, juste pour de l'amour. Désolé, mais ce n'est même pas le royaume de Dieu. Si, si, Luc. Non. Dieu commence par un commandement dans l'Ancien Testament. Il commence avec un commandement dans l'histoire du premier Adam. Et quand le deuxième Adam, n'oublions jamais que Jésus est considéré comme le deuxième Adam, ça veut dire on fait un reset sur l'humanité qui est dépravée, qui s'est éloignée trop de Dieu. Donc maintenant, on remet la grâce, on met le salut comme base de la nouvelle humanité. Donc Jésus, deuxième Adam. Qu'est-ce qu'il dit, le deuxième Adam ? Non, mais c'est dans la Bible. Hein. Je vous assure. Hein. Donc Jésus, deuxième Adam, recommence aussi avec un commandement. Matthieu 28. Donc, la relation de Dieu à l'homme, son amour indéfectible, incroyable, non mesurable, so huge, tellement extraordinaire, qui nous fait du bien, qui nous reconstruit, qui fait de nous des créatures merveilleuses. Merveilleuses. Oui. J'allais dire Roya, mais non. Non, j'aime bien dire Ya, parce que vous savez, Ya, ce que ça veut dire, hein, c'est le Ya de Alléluia, c'est le Ya de Yahvé. C'est pour ça que j'aime bien dire Ya, en passant. Bon, en tout cas, on est centré sur Dieu parce que Dieu nous aime et qu'il nous a donné une mission. Et donc, une église ne peut pas être en dehors de ces deux choses. Dieu nous aime, et donc on doit aimer les autres. On a une mission, donc on est en mission. Il n'y a pas de sujet, ça ne se discute pas. Ah si, 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 Luc, c'est pas mon opinion. Ouais, il y a des choses sur lesquelles on peut interpréter. Est-ce que tu manges de la viande halal ou pas ? Ben, c'est biblique, hein, c'est dans Romains. Tu peux ou tu ne peux pas. Si, si, c'est marqué. Bon, il n'y a pas le mot halal, il a dit de viande sacrifiée aux idoles. Pareil. Donc, tu as le droit d'en manger ou pas, selon ta conviction. Il y en a qui considèrent que le jour de Noël, faut prêcher la naissance de Jésus. Bon, il n'est pas né à Noël, mais c'est pas grave. Il est né plutôt au mois de mai, hein, quand il fait beau, pas en hiver. Hein. Bon, c'est pas grave. À Pâques, il faut prêcher la résurrection. Ok, super pour ceux qui veulent. Moi, ça me fait rien du tout. Ben, j'ai aussi raison que celui qui veut absolument le faire. Donc, faut aménager dans l'Église ces deux choses. Mais c'est des opinions. Par contre, est-ce que Dieu est amour ? C'est pas une opinion. Dieu est amour, point barre. Est-ce que Dieu a une mission ? C'est pas une option, c'est pas une interprétation. C'est juste un fait. Il a donné à l'Église une mission, point barre. Et donc, on avance comme ça. Alors, les six choses, et donc sur lesquelles on va s'arrêter un peu, c'est l'implication, la fraternité, les groupes restreints, la destinée, l'adaptation et les actions. Ça va ? C'était que l'introduction, donc maintenant on va dans le dur. C'est bon, vous êtes prêts ? Non ? Pas encore ? Ça va ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Merci. Alors, et mes codes couleurs ont du sens. Hein. Vous savez, les couleurs ont un sens. Moi, j'aime ça. Autant je ne prête pas d'attention sur les jours, je m'en fiche complètement, autant j'aime le sens des couleurs. Je dois avoir une âme artistique quelque part au fond de moi, très inside. Merci. Ah, absolument. Donc, le mauve a le sens de la spiritualité. C'est pour ça que j'ai mis le mauve. Donc, l'implication, c'est une logique absolue de l'élection de Dieu sur nos vies. Si je dis être sauvé, je suis automatiquement en mission. Je suis missionné par Dieu. Je suis missionné par Dieu pour aimer. Et quand on a dit ça, on a fait le tour de toute la question. On dit tout en un seul mot. Je suis missionné par Dieu pour aimer les autres. Et donc, ça doit se voir. Et dans l'amour, il y a autant le fait de dire à la personne « t'es en train de prendre le mur ». Enfin, tu vas en enfer, tu vois, c'est une autre façon de le dire. Hein. « T'es en train de prendre le mur, faut vite que tu trouves un sens à ta vie ». Ça s'appelle l'annonce de la bonne nouvelle, ou si vous voulez, le mot classique « évangélisation ». On peut dire ça aussi. Bon, sauf que « évangélisation », pour les gens de la société, ça ne veut rien dire, hein, en passant. Et donc, si on veut être juste clair dans le message avec les autres, c'est juste bien de parler la France d'aujourd'hui. Ça va ? Jésus, il parlait la Grèce. Ecclésiaste, un mot grec. Euguelion, pour dire évangélisation ou évangile. C'est un mot grec. Et que l'Empire romain s'était approprié. Donc Jésus, il utilisait les mots de l'époque. Jésus parle souvent avec des paraboles. C'est le truc du moment. Si Jésus était là, je suis sûr qu'il utiliserait Instagram et compagnie. Mais non, mais si, mais non, mais si, mais non, arrête, mais si. Parce que Jésus a démontré toute sa vie qu'il était dans la vraie life des gens. Et il a dû choquer plus d'une fois les Juifs à vouloir être dans la logique de l'Empire romain qui avait une pensée grecque. Plus d'une fois, il a dû choquer. Et ce n'est pas seulement l'histoire du sang. Souvent, quand on parle du sang, on dit qu'il a choqué les Juifs, mais il a choqué les Juifs en permanence. Son propre camp, il l'a choqué en permanence. Pas par provocation gratuite, mais juste pour dire, les gars, c'est bien vos trucs là, qui traînent jusque par terre. Mais il faut parler le langage et s'habiller comme les gens d'aujourd'hui. C'est ça que Jésus dit dans tout son message. On en reparlera. Donc l'implication, c'est une logique évidente. Alors, on ne va pas prendre le temps de lire les versets, mais hier, il y a quelqu'un qui a donné 15 000 euros et qui m'a dit que du coup, je pourrais distribuer le PDF à tous ceux qui veulent. Donc, c'est gratuit, quelqu'un a payé pour vous hier. 15 000 euros, waouh, c'est énorme. Non, c'est une blague. permettre à chacun de s'impliquer. 1 Corinthiens 14, 26 dit que si quelqu'un a un chant, vous connaissez ça ? Une instruction, une prophétie, une prédication, un psaume, qu'il se taise. Bah, comment c'est quoi cette contestation ? C'est moi qui parle, c'est moi qui ai le micro. Qu'il quoi ? Qu'il le fasse. Nos églises ont inventé le culte de l'estrade. Conducteur de louange conduit la louange. Le prédicateur prédique. Et les monitrices de l'école du dimanche font l'école du dimanche. Les moniteurs ? Non. Non, c'est le pasteur et les monitrices, hein, c'est ça le truc. Non ? Ok. Donc, chacun peut participer. C'est juste énorme. Une église missionnelle laisse la place à tout le monde pour participer. Ah oui, mais si on est 300, faudra trouver une formule magique pour que tout le monde puisse le faire, d'où les groupes restreints. Même si on est une église de 1000, on peut le faire. Mais il faut trouver une logique de groupe restreint dans lequel je peux avoir de l'espace pour être, pour exister. Puisque je suis une créature merveilleuse, pourquoi je me tairai ? Donc, 1 Corinthiens 14, 26, tout le monde participe. Colossiens 3, 13. Le droit à l'erreur, s'il nous plaît. Le droit à l'erreur. Ton flingue, ta kalachnikov, tu l'arranges. Quelqu'un fait une erreur ? Bien fait. C'est une bonne occasion pour exercer la grâce et c'est une bonne occasion pour la personne d'apprendre. Une de mes citations préférées que j'ai dans ma coopérative quand on rentre, c'est « Je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. » Nelson Mandela. Nelson Mandela, quand il est en prison, il rappelle que son éducation, elle est faite par des méthodistes. Si jamais vous ne saviez pas, ça vaut le coup de lire son pavé de 1000 pages, là, qui rassemble toutes les lettres en prison. C'est juste bluffant. Et donc, cette citation-là, il s'en inspire de la Bible. Et je l'aime d'autant plus. Donc, puisque je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne, ça veut donc dire que je dois laisser les autres aussi apprendre ou gagner. Ben, si René gagne, je ne veux pas, parce que ça me menace. Repars vite en Belgique. Mais non, Luc, mais je sais qu'il habite en Hollande, enfin qu'il vient de la Hollande. Bon, on laisse la grâce agir, et donc du coup on accepte les erreurs des autres. Réciproquement. Si j'accepte que quelqu'un puisse faire une faute, ça veut dire qu'il accepte aussi que je fasse une faute. Ou si je veux que les gens acceptent que je fasse une faute, il faut que j'accepte aussi qu'eux en font. Toi, c'est dans tous les sens. Et c'est vraiment dans tous les sens. Et donc, si Jésus est premier au milieu de nous, si la centralité est bien respectée comme première, si je recherche bien le royaume de Dieu, je ne suis pas menacé. Même pas par René. C'est quoi le problème ? On se sent agressé ? On se sent attaqué ? Parce qu'on n'est pas bien dans notre peau ? Et donc, Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous remettre à notre place. Et il veut qu'on réalise qu'on est des créatures merveilleuses et qu'il n'y a pas besoin de se comparer aux autres. Sois pas quelqu'un d'autre. Sois pas soignite. Elle est déjà prise. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Mais je trouve ça génial. Dieu a fait de nous, chacun de nous, une créature merveilleuse, autonome, unique. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui ressemble à quelqu'un d'autre. Et pourquoi on essaye d'être comme les autres ? Parce qu'on a vu que l'autre passait bien, donc du coup on se dit « Ah, je vais faire comme ça ». Non, sois toi. Sois toi, avec ta créativité, avec ton style. Avec ton calme, t'as pas besoin de grimper au rideau si tout le monde grimpe au rideau. C'est saoulant. On est qui on est par la grâce de Dieu. Et on a le droit à l'erreur. Amen. Mais on rejette aussi l'assistanat paternel, l'assistanat spirituel ou le paternalisme, j'ai fait un mélange des deux. On ne veut pas d'assistanat. On ne veut pas d'assistanat spirituel. La même chose que nous dénonçons dans la société pour des gens qui sont toujours assistanés. Et les premiers qui dénoncent l'assistanat sont souvent ceux qui pratiquent du paternalisme politique. Donc ne nous faisons pas avoir. Hein ? Ok ? Donc l'assistanat, on n'en veut pas. L'assistanat, c'est quoi ? Si on prend la précarité, c'est facile à comprendre. Quelqu'un qui est depuis deux générations au chômage ou au RSA, c'est terrible. Et vous savez, ça existe. Hein. Moi, j'étais maire adjoint. J'ai géré un CCS pendant 6 ans, des familles de 4 générations. Et je sais très bien de quelle partie on peut dire « bande de feignasses ». Oui, on va voir la famille, ce qu'elle a vécu et comment elle est détruite et comment personne s'en occupe. Parce que si on s'en occupe, on peut en ressortir. Dans notre coopérative, il y a des gens qui sont devenus entrepreneurs, qui sont en CDI dans notre coopérative, qui étaient au chômage depuis un paquet de temps. Moi, je n'aime pas l'assistanat, j'aime l'assistance. Et l'assistance, c'est de donner et c'est d'aider jusqu'à ce que la personne soit autonome et qu'elle retrouve sa dignité. Ça, c'est Dieu. C'est ni de gauche ni de droite. C'est de Dieu. C'est du royaume de Dieu. Nous militons pour ça. Yeah. Donc, on ne veut pas d'assistanat spirituel. Le Apocalypse 1:6, donc à chaque fois, je vais faire juste un petit focus. Il est censé représenter un prêtre, hein, ce gars-là. Bon, je l'ai fait avec un visage le plus sympa, mais on est tous prêtres, mais pas dans le sens catholique du terme, mais on est tous prêtres quand même. On est tous sacrificateurs, si vous préférez la version. Mais c'est la même chose, hein. Sacrificateur et prêtre, c'est pareil. Donc nous sommes tous sacrificateurs. Ça veut donc dire qu'on a un accès direct à Dieu, on n'a pas besoin de passer par le pasteur. On est tous en direct live avec Dieu. Et nous sommes tous, sauf quelques-uns parmi vous, beaucoup parmi vous, tous parmi vous, nous sommes aussi, quoi d'autre ? Roi. Ça veut dire quoi d'être roi avec Dieu ? Donc petit roi, la même façon que petit Christ. Hein. Ça veut dire quoi d'être roi et reine avec Dieu ? Ça veut dire qu'on a une autorité qu'on exerce dans un domaine particulier, puisque je suis une créature merveilleuse, et puisque Dieu m'a créé pour une mission, et puisqu'il m'a demandé de faire quelque chose, j'ai l'autorité pour le faire dans mon domaine. Si je suis musicien, j'ai une autorité dans mon domaine. Si je chante, c'est évident. Si je m'occupe des enfants, pas parce qu'il faut le faire, et pas parce que je suis une femme, mais parce que je suis un homme qui est en mission, ça c'est top. Et il y a plein d'autres choses à faire dans une église, plein d'autres choses. Et nous, on se focalise sur les choses les plus visibles. Bon, il y a ceux qui font la sono, c'est bof. Tellement technique et vil. Moi, j'ai pas besoin des micros. Hein. Heureusement qu'on a la technique. Et donc les techniciens, siennes. Heureusement qu'on a des chanteurs, chanteuses. Heureusement. Mais il faut pas s'arrêter aux choses visibles. Il faut accepter tous les autres types. Est-ce que quelqu'un écrit des poèmes ici ? Ben, lève la main, quoi, zut ! Bon, il y a une personne devant qui a presque levé la main. Il y en a d'autres qui écrivent des poèmes ? Mais c'est top. Tu arrives à un culte dimanche matin et tu as quelqu'un qui a écrit un poème. Eh bien, je peux te dire que ça fait autre chose. Ça touche des gens d'une autre façon. Il y a des personnes qui ne sont touchées ni par le chant ni par la prédication. Mais alors un poème, ça peut les bouleverser. Ben, ils sont où les poètes ? Ce n'est pas la tendance du moment. Sauf qu'il n'y a pas de question de tendance, il y a une question de besoin et de créativité qu'on a. Donc il y a ceux qui l'ont et ceux qui vont le recevoir. Il y en a qui font des bons desserts. Normalement, on devrait avoir plus de mains qu'une. Il n'y a que toi qui fais des bons desserts. C'est triste. Il y en a... Ah, ok. J'avais dit qu'il y en aurait plus que des poètes. Hein. Bon, un bon dessert, un repas communautaire, pétard, ça fait du bien. Hein. Pardon pour le pétard, c'est le sud qui parle. Mais c'est top. Et vous savez, moi j'ai une voisine, quand j'habitais à un autre endroit que là où j'habite en ce moment, qui avait un enfant malade. Plusieurs fois, je lui parlais de Dieu. Négatif. Un mois, un an, deux ans, trois ans. Un jour, elle est malade, mais malade de chez malade. Pendant toute la semaine, ma femme lui a fait à manger. Eh bien, c'était bien plus efficace que tous mes messages que je lui avais donnés. Bien plus efficace. Eh oui. Eh oui. Mais le pasteur, c'est le plus important de l'Église. Hein. Ouais, c'est pas forcément lui qu'on écoute le plus. Donc, tous les ministères, toutes les personnes ont quelque chose à faire. Et donc, nous ne voulons pas l'assistance spirituelle, nous voulons être dans l'action. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai, Monsieur le Président. Encore un quart d'heure. Quelqu'un me donne encore un quart d'heure ? Qui me donne encore un quart d'heure ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 15. Bon, et on est encore là, il n'y a pas de repas ce midi. Hein. Ah, mais...
Moi, mais j'ai... Non, mais t'as 4 heures, c'est ta première.
Ouais, mais j'aurais voulu finir quand même ça avant. Ah, oui. Parce qu'après, s'il y en a qui ne sont pas là cet après-midi, c'est dommage. Fraternité, vous êtes tous là. Se servir les uns les autres. Amen, on est au service des autres. Je viens avec la conscience que je ne fais pas juste mon business, sinon c'est juste moi, 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 je suis une créature tellement merveilleuse, j'éclabousse tout le monde et regardez-moi, je suis top. Non, je suis au service des autres. Ça oriente ma créature merveilleuse, ça oriente vers les autres. J'aime, pas seulement pour me faire du bien. J'aime les autres pour les servir et ça me fait du bien aussi. Et ça, c'est top. Et en faisant ça, j'honore Dieu. On fait le grand chelem. Favoriser l'authenticité. Que chacun dise la vérité à son voisin. Et évidemment, puisqu'on a posé le socle comme amour avant, ça ne peut pas être dissocié de ce socle. Donc forcément, c'est parce que je suis motivé par l'amour et pas pour faire un règlement de compte. Je vais te balancer la vérité. Pétard, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors ça, tu le laisses parce que même avec un verset, c'est pas bon. On aime les autres et on est là au service des autres. Et on le fait avec vérité. Et 1 Jean 3, 18, petit focus, attendez pour la photo. Vous êtes trop vite. Donc j'ai trouvé un cœur avec une clé dedans. Ça veut dire que parce que j'aime, alors je suis actif, je suis dans l'action. L'amour sans action, c'est un amour grec, ce n'est pas l'amour de la Bible. L'amour grec, l'amour, pardon, romantique, ça n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de romantisme dans les couples. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais l'amour juste affect, l'amour concept, l'amour presque philosophique, l'amour, tu sais, avec le gars qui a le grand nez, là, Cyrano. L'amour juste déclaratif, bon, eh ben laisse-le au grec. Mais nous, on est constitués par l'esprit de la Bible, donc un esprit hébraïque. Dans la Bible, quand on aime, on agit. Et ça se voit. Amen. Donc, 1 Jean 3, 18. Aimez avec des paroles, mais que votre amour se voit par des actions. Les groupes restreints.
Ouais, je crois que je vais sauter un truc parce que ça va être trop long.
Les groupes restreints. Alors, il y aurait, si on avait eu une semaine, on aurait pu faire une matinée complète sur le fondement biblique de ce que c'est un groupe restreint que Dieu a inventé. Je rappelle que Jésus, quand il a créé ses disciples, ils étaient 12. Donc avec lui, 13. Et ils ont fini comment, tellement la croissance était grande? Ils ont fini à 12. Parce que t'en as un qui a été un peu traître. Non, mais Luc, elle est 70. Oui, oui. Mais Luc, il y avait la foule. Oui, oui. Jésus, il a consacré son temps aux 12. Et dans les 12, il faisait des missions, des incursions de missions, seulement avec qui? Qui c'est? Jonas? Ah non, non, c'est pas, non. Alors, comment il s'appelait? Elvis Presley? Non, non, c'est pas lui. Jérémie? Non. Alors, allez-y. Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean étaient dans une barque. Moi, quand j'étais gamin, on apprenait ça, tu vois. Comme ça, on retenait bien qu'il y avait trois avec Jésus. Pierre, Jacques et Jean ramaient dans une barque. Pierre, Jacques et Jean ramaient dans une barque. Voilà. Ça sert à l'école du dimanche. Hein. Et donc, du coup, même à l'intérieur des 12, Jésus, il a focalisé encore plus sur 3. C'est impressionnant. Et parmi les 3, 1, Jean. Pas le livre de 1 Jean. Hein. C'est Jean, une seule personne. Bon, il a des chouchous. Non, il est en train de démontrer que dans l'humanité, il y a des liens d'affection plus particuliers, plus resserrés. Mais il a quand même les 12. Et les 12, il les a suivis à égalité. Il les a aimés à égalité. Donc, ce n'est pas Jean le préféré, c'est Jean avec une relation particulière. Ce n'est pas pareil. Mais c'est génial. Et c'est tellement d'humanité là-dedans. Nous, on est tellement spiritualisés qu'on en oublie l'humanité. Mais pétard, c'est Dieu qui a créé les hommes, ce n'est pas le diable. Hein, hey, je ne sais pas qui vous a créé, moi, c'est Dieu. Hein. Et vous? Avec le corps, l'âme et l'esprit. Et Jésus a honoré ça. Si Jésus avait voulu, il serait venu juste sur le ciel et il n'aurait jamais pris une forme humaine. Il prend une forme humaine parce qu'il aime l'humanité. Il aime les hommes, hommes, femmes. Il aime l'être humain. Et donc, nous devons le faire aussi. Et donc, c'est dans des groupes restreints qu'on peut commencer à travailler. Alors, je passe très vite. Hein. Au moment de la réforme, avec Martin Bucer, ça c'est à Strasbourg, Martin Bucer a théorisé les petits groupes sur la base de Jésus. Hein. Mais ceux qui les ont mis en place, c'est plutôt les Quakers. Les Quakers, donc justement, la sociocratie vient de la Hollande, là où des Quakers ont dit, en fait, il faut absolument intégrer cette logique de petits groupes dans une gouvernance aussi. Et donc, c'est eux qui ont théorisé l'entrepreneuriat collectif, dont les gens comme moi s'inspirent aujourd'hui. L'entrepreneuriat collectif chrétien, ce sont les Quakers. Il y a tellement à dire, hein. Il n'y a pas que Jean 3,16 dans la Bible. Hein. Allô? Nos églises, avec les versets répétés sans arrêt, qui sont sur une base de même pas 10% de la Bible, on a le droit de continuer à les prendre parce qu'ils sont bien bibliques et ils sont fondamentaux, mais il y a aussi d'autres versets. Il y a 90% de plus que ce qu'on dit tous les jours, dont ces logiques-là. C'est le réveil piétiste de Philippe Spener qui a mis en place ce qu'on appelle les collégia pietatis. Et donc, il a repris l'idée de Bucer et il l'a concrétisé en s'inspirant en passage de cet esprit, de cet entrepreneuriat collectif. Et c'est Wesley, le méthodiste, qui a ajouté à ces petits groupes l'incarnation dans la cité. Wesley, le nombre d'images où on voit Wesley devant des foules, c'est juste pas la norme de Wesley. Ça, c'est les rassemblements qui avaient lieu soit tous les trimestres, soit une fois par an. Ce n'est pas la réalité de l'Église. Regardez ce qu'a écrit Wesley sur les groupes. Il parle de groupes de 60 maximum et il dit que c'est déjà trop. Il dit l'idéal, c'est plutôt une cinquantaine, mais à l'intérieur, il faut au moins deux groupes de 25. Et dans les deux groupes de 25, si on peut viser des groupes de 7-10 en se basant sur la Bible. Et après, tu peux avoir des foules si tu veux, c'est pas grave. Mais l'Église missionnelle, c'est ça. C'est dire, même si j'ai une Église de 200, 300, 400, 1000 personnes, comment je peux faire pour que tout le monde participe? Bah, dans une Église de 1000, c'est pas possible. Mais même ce matin, c'est impossible. Vous ne pouvez pas participer tous au culte, dans le sens. Mais si, Luc, on chante tous. Oui, oui, oui. Mais ton expression personnelle, ton expression... quelque chose qu'il faudrait expliquer trop longtemps. La personnalité que je dégage, même quand je prie à haute voix, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Vous êtes trop nombreux. Trop nombreux. Et pourtant, il faut garder cette forme-là. Et donc, il faut trouver une logique de groupe restreint où il y a une possibilité d'exister, de se développer, de s'épanouir et aussi de se soumettre les uns aux autres. Yes! Ouais, bon, la dernière partie... Bah si. Ok.
Alors ça, je vais passer. On verra peut-être cet après-midi si on a le temps. Bam, je saute. Comme ça, vous ne voyez pas.
Alors, l'avant-dernier, il me reste 3 points. Je vais les accélérer un peu. Et éventuellement, on reviendra cet après-midi avec des questions. Donc, il me reste encore 258 minutes. La destinée, servir avec son intelligence. On n'a pas le temps de rentrer dans la destinée. Une fois où j'étais venu, un dimanche après-midi, on avait fait des tests. Vous vous rappelez ? MBTI et compagnie. Ok, d'accord. C'est rassurant, c'est pourquoi on se déplace. Et donc, je vous invite à savoir qui vous êtes. Je vous invite à mettre des mots sur qui vous êtes. Si Jésus a demandé qu'on exerce bien notre ministère, répété par Paul à Timothée, par exemple, exerce bien ton ministère. C'est juste pour les ministères dons ? Mais arrêtons de nous saouler avec les ministères dons, pétard. C'est un verset, 2 versets, 3 versets dans le Nouveau Testament. Par contre, de servir Dieu avec son intelligence, de servir Dieu avec son argent, d'exercer son ministère au quotidien, c'est plus d'une centaine de versets dans le Nouveau Testament. Bon, c'est pas écrit dans Jean 3,16, c'est vrai. Mais il n'aime pas Jean 3,16 ? Si, il aime Jean 3,16, c'est pas le problème. On a plusieurs types d'intelligence. Je ne fais que citer les 7 et je vous donne des références que vous pourrez relire si vous reprenez le PDF. On a 7 formes d'intelligence. Howard Gardner, un Américain, c'est pas de sa faute, sonite. Un Américain a dit qu'on en avait 8. Bon, à l'imagerie cérébrale, on ne trouve que 7. Donc moi, je conserve que les 7. Et comme la 8e, on ne la trouve pas non plus dans la Bible, je garde les 7. Et donc, j'enseigne à l'université, donc j'enseigne les 7 à l'université. Je dis, et il y a toujours quelqu'un qui me dit, monsieur, il y a aussi une 8e. Ouais, je sais bien, mais elle n'est pas visible à l'imagerie cérébrale. Et moi, je ne la trouve pas dans des documents que moi, je lis. Donc, vous lisez quoi, monsieur ? Bah, je te le dirai à la pause. Donc, logico-mathématique. Il est dit de... J'en prends juste 2. Donc, la logico-mathématique, par exemple, c'est quand il est parlé de Moïse qui a été élevé dans la science des Égyptiens. C'est le livre des actes. Si jamais vous ne voulez pas, vous vérifiez tout de suite en ouvrant votre Bible ou en la checkant sur votre téléphone. Acte 7:22, c'est... il a eu l'éducation de cette science des Égyptiens et ses paroles et ses actes en furent emprunt. Moi, si j'avais pu conseiller celui qui a écrit la Bible, j'aurais dit, on n'aurait pas pu dire qu'il était instruit dans l'esprit juif ou d'Israël. L'esprit des Égyptiens, c'est pas possible. Et pourtant, Dieu dit qu'il s'en est servi. Ça donne de l'espoir à tous nos diplômes qu'on a reçus et que des fois on se dit, comme c'est pas de Dieu, je fous ça à la poubelle. Mais non, surtout pas. Utilise-les pour la gloire de Dieu. Donc utilise ton intelligence pour la gloire de Dieu. Et je prends aussi par exemple l'intelligence musicale dans Amos. Il est dit, il se croit intelligent comme David sur les instruments de musique. Voilà, donc l'intelligence musicale, ça sert à quoi ? À chanter ? Pas que, à être poétique, pas que. Avoir une façon d'interpréter les choses, même dans des discours. Donc, ça sert à beaucoup de choses, l'intelligence musicale. En tout cas, on doit servir Dieu avec son intelligence. Alors, je sais que nous utilisons souvent les versets de « ne sois pas présomptueux, ne t'appuie pas sur ta sagesse », et du coup, on évacue la sagesse. Non, c'est pas parce qu'on nous prévient qu'il y a des fausses choses ou des choses mauvaises dans notre humanité qu'il faut s'en débarrasser. C'est pas parce qu'il y a des faux pasteurs qu'on n'a plus de pasteurs, non ? C'est pas parce qu'il y a l'adultère qu'il n'y a plus de couple. Rassurez-moi. Vous avez encore des couples ici ? Bon, c'est pas parce qu'il y a l'adultère qu'il n'y a plus de couple. Donc c'est pas parce que Dieu nous prévient de ne pas utiliser de façon orgueilleuse, prétentieuse l'intelligence qu'on ne doit pas l'utiliser, puisqu'il dit qu'on doit le servir avec notre intelligence. Et j'ai commencé avec Marc 12:30 en disant « d'aimer Dieu avec sa pensée ». Donc le mot c'est intelligence, nous en grec, N-O-U-S. Donc nous devons utiliser notre intelligence pour la gloire de Dieu, et pas seulement notre esprit. Alors tu vois, tu es super intelligent, et on est tous super intelligents. Moi je déteste quand quelqu'un me dit « alors là, celui-là il est particulièrement intelligent ». Mais particulièrement intelligent dans quel domaine ? Parce qu'il y a des chances que celui qui est hyper bon en logique mathématique soit peut-être un peu moins dans l'intelligence interpersonnelle. En passant au hasard comme ça, gratuitement. Oh ben qu'est-ce qu'il est froid et distant avec les gens. Oui, mais regarde plutôt ce qui va bien chez lui et puis ça aidera à passer ce qui est moins bien. Parce que chez toi aussi, il y a des trucs un peu moins bien. Toi ? Donc utilise ton intelligence. C'est tellement épanouissant pour soi et pour les autres. Et c'est tellement utile dans la société quand tu viens en étant bien dans ta peau et en ayant la capacité d'utiliser ta forme, tes formes d'intelligence. Ok, on n'a pas le temps pour tout dire, mais... Pourquoi c'est pas venu avant, ce truc-là ? On n'a pas le temps de tout dire, mais en tout cas, voilà, je dois servir Dieu avec mon intelligence. Et donc, je ne veux pas être prétentieux. Et le meilleur moyen de ne pas être prétentieux, c'est de regarder les autres comme s'ils étaient inférieurs à moi. Waouh, vous êtes bien. Eh, franchement, là, vous êtes mieux qu'au début. Hein. Vous êtes chauffés, là, maintenant, c'est top. Le public est chaud. C'est bien. Donc, effectivement, vous faites bien de réagir. Je cherche l'intérêt des autres et je les vois comme s'ils étaient supérieurs à moi. Si je le fais des autres, mais que les autres le font aussi de moi, ça claque. On est tous à égalité. Un responsable d'église, un pasteur soi-disant, est supérieur aux autres ? Des clous. Il a une intelligence comme les autres et il a des failles d'intelligence dans d'autres domaines comme tous les autres. Bam ! Et alors, si tout le monde voit l'autre comme étant supérieur à lui-même ou à elle-même, eh ben, on déconflictualise bien des choses dans nos vies d'église. Mais ça, vous ne pouvez pas savoir de quoi on parle. Adaptation, l'avant-dernier point. Ne me faites pas perdre mon temps, s'il vous plaît. Hein. Je suis à la bourre, là. Je cite rapidement, au pas de course, le fait de s'adapter. Une église missionnelle s'adapte et elle a donc un sens de créativité. On rejette ce qu'on appelle la spiritualité franchisée. Il y a des grandes églises, je ne vais pas les citer, ce serait malveillant. Il y a des grandes églises, ça finit avec un G, ça commence par un H par exemple. Et il y a donc une forme de franchise, mais il n'y a pas que, hein, il y en a plein d'autres. Hein. C'est une forme de franchise, on décalque. Non mais vous ne savez pas de quoi je parle, cherchez pas ce que je veux dire. Et donc on a des références, et comme ils ont inventé des chansons et qu'ils sont très bons dans les chansons, du coup tout le monde les chante, donc tout le monde prend de cet esprit-là. Et comme les chrétiens écoutent plus de chansons que de prédications, la théologie passant par les chansons, on en arrive à dire des bêtises. Et c'est bien gênant. Méditer la parole de Dieu, c'est notre job. Pas de chanter des chansons en permanence qui disent des âneries. Il y a une des chansons en ce moment qu'on chante dans nos églises, c'est « Je peux tout ». Ah bon ? Ah bon ? Ben si ? Ben non. Je peux tout par celui qui me fortifie, déjà ce serait mieux. Ce serait plus biblique. Et je peux tout, attention au sens qu'on lui donne. Parce que Dieu dit qu'il élargit notre tente. C'est comme si, tu vois, j'ai un espace de 10 mètres carrés dans ma nature humaine et que Dieu m'en fait prendre 20 mètres carrés. Mais ce ne sera jamais 4458 mètres carrés. Tu vois, on n'est pas dans l'impossible. Hein. Il n'y a que Dieu qui est dans l'impossible. Nous, non. Nous, on est limité par le temps, limité par notre espace, limité par la géographie de notre corps. Merci. Donc je ne peux pas tout faire, c'est pas vrai, c'est de la bêtise. Mais elle est véhiculée par des chants qu'on chante bien et qu'on aime bien. En plus, ils sont top, ça claque bien. L'évangile pour tous, chrétiens ou non chrétiens. Donc je parle un langage d'aujourd'hui et je recite Ecclésia, Euguelion, même le mot ancien. Il y a des anciens dans ton église. Waouh, il y a des anciens dans ton église, ils sont vieux comment ? Et ils doivent être gravement vieux parce que anciens, waouh ! Eh ben non, il a 25 ans. Waouh, il est ancien à 25 ans ! Pouh ! C'est un dinosaure alors le jour où il aura 65. Mais non, mais le mot ancien, il va rien dire, les amis. Ça veut rien dire pour les gens aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ancien ? On passe pour des gens qui sommes décalés. Mais c'est pas grave, Luc, c'est la grâce qui compte. Non, Jésus nous a montré le modèle. Paul nous a montré le modèle. Paul cite à 10 reprises des philosophes de l'époque et en plus, plus de la moitié sont des Grecs. Encore une petite provoque pour les juifs du moment. Et il cite des philosophes de la société de l'époque et qui pourtant sont devenus des versets de la Bible. Waouh, waouh, waouh. Attention à nos mots super cachers qui ne veulent rien dire pour les autres. Une église missionnelle, normalement, cherche à s'adapter. Ça arrive qu'à la fin, ce n'est pas la base. Ce n'est pas parce que tu t'adaptes à la société dans le langage que tu es bon. Hein. C'est parce que tu as posé le socle, hein, pas avant. Mais c'est aussi important de parler langage de moment. Pardon, juste pour les anciens, donc, le mot ancien à l'époque, c'est ceux qui gouvernent aux portes de la ville. Hein. Et donc, tout le monde sait dans la société qu'un ancien, c'est l'équivalent d'un conseil municipal. Bon, on va pas dire, dans mon église, il y a un conseil municipal pour parler des anciens. Ça va pas non plus. Hein. Mais on devrait en tout cas utiliser des mots autres que le mot ancien. Sinon, il y a des chances qu'on ne dise pas tout à fait les choses comme il faut. Et je finis sur ce point-là avant de finir le dernier, définitivement après, c'est favoriser la double citoyenneté. Je suis citoyen du ciel et je suis militant du royaume de Dieu, mais je suis aussi citoyen de la cité. Paul utilise à plusieurs reprises le mot politéomai, qui est un dérivé du mot polis, P-O-L-I-S, qui parle de l'organisation de la cité. Donc on ne parle pas de politiquer. Politiquer, c'est les hommes politiques. Ça n'est nulle part dans la Bible. Par contre, politéomai, pour dire un citoyen engagé, c'est Paul qui le dit. Mes amis, si on veut être engagé avec Jésus, et si on veut que nos églises aient un impact dans la société, si on veut que le sel serve à quelque chose, on doit faire de la politique aussi. Bon, pas Joe Omer, c'est nul. Mais on peut faire d'autres choses. Mais vous inquiétez pas, j'étais maire adjoint, c'est pas grave. Ça se soigne. Donc c'est pas, on peut aussi faire de la politique, et donc on peut aussi s'engager. Mais c'est pas ce que Dieu demande à ce moment-là. Et donc, on va voir cet après-midi qu'on peut faire dans le monde économique, politique, bien évidemment. Mais ce qu'il demande à tous, en tout cas, c'est d'avoir un engagement de citoyen responsable. Moi, quand j'entends certains chrétiens parler de la société, je me dis, waouh, ils n'ont pas été prévenus qu'on vivait au milieu d'une génération perverse et corrompue ? Ils ont pas été, on ne leur a pas dit qu'ils étaient des brebis au milieu des loups ? Ils n'ont pas été prévenus ? Et excusez-moi, mais on gueule avec les loups au lieu d'être différent au milieu des loups. Et donc, ça nous demande une responsabilité incroyable. Je ne peux pas toujours être en train de critiquer le maire, la mère, ma mère. C'est un nom d'élu. Hein. Je ne peux pas sans arrêt être dans la critique si je ne suis pas dans l'action. Donc, je te propose une chose avant de finir. C'est, à partir de maintenant, quand tu vois quelque chose qui n'est pas bon chez les hommes politiques, soit tu la fermes, non, tu te tais, soit tu fais quelque chose de différent et ça te donne le droit de dire quelque chose. J'ai été élu au moment du mariage pour tous. Le nombre de députés, je vous assure, je vous promets devant Dieu, le nombre de députés qui sont venus me dire « J'ai reçu un courrier de un tel, tu le connais ?» Ouais, je connais ce pasteur. Il n'est pas comme toi, il ne devrait pas aimer les gens. Oui, je sais. Pourquoi il ne me fait que des reproches, jamais des choses positives. Oui, je sais. Si tu agis, tu peux dire. Si tu n'agis pas, tu peux te taire. C'est violent pour finir. Mais il n'y a aucune méchanceté. C'est juste, j'aimerais vraiment que nos églises soient crédibles. Dans une société où il n'y a plus de bruit possible, tellement il y en a. Ta crédibilité se fait par les actions, par le sel, et une fois que tu as versé le sel, tu peux utiliser la lumière, parce que c'est dans cet ordre-là que Jésus l'a dit. Vous êtes sel et vous êtes lumière. Et ça, on verra cet après-midi, le shalom. Petit teasing. Ça, on verra aussi cet après-midi, mais je finis avec la dernière slide rapidement. Donc, des actions avec professionnalisme, c'est la couleur du gris. Je ne vous ai pas fait le détail de toutes les autres couleurs, mais j'aurais dû. Hein. Le gris, c'est le symbole du professionnalisme. Professionnalisme, ici, je l'ai mis entre guillemets exprès, ça ne veut pas dire qu'on fait tout de façon professionnelle, c'est on fait tout le mieux possible. C'est dans ce sens-là que je voudrais le dire. Et vous savez quoi ? Nos églises, avec les associations à but non lucratif et les bénévoles, on en est arrivé à brasser les choses et à le faire comme si... C'est pas grave si tu chantes pas bien, ça arrivera propre au ciel. C'est pas grave si tu sais pas jouer de la batterie, ça arrivera bien au ciel. Ah bon ? Donc on peut envoyer nos enfants chez des gens qui sont pas médecins pour les soigner ? Si tes enfants sont malades, tu les envoies chez un vrai médecin, non ? Rassure-moi. Vaut mieux que tu pries et que tu les envoies chez personne. Ça, c'est ta responsabilité. Mais les envoyer chez quelqu'un qui n'est pas médecin, ça craint. Bon, alors pourquoi pour tout le reste on devrait être médiocre ? On est les chrétiens, on devrait être à la tête. Tu montes un projet, tu devrais être dans le meilleur. Pas dans le meilleur en te comparant aux autres, dans le meilleur de toi-même. Le meilleur que tu peux donner à Dieu. C'est un moyen de glorifier, donc d'adorer Dieu, et c'est un moyen de servir les autres qui est top. Allez, recherchez la prospérité de la ville. On dira deux mots cet après-midi là-dessus. Et annoncer l'évangile avec son style. Ça, c'est aussi un teasing. On fait ça cet après-midi. Il y a un petit test. Il y a 6 styles différents d'évangélisation. Et on aura le temps de les voir. Et là, pour le coup, j'affiche pas parce que sinon, vous allez avoir toutes les réponses. C'est pas marrant. Donc, je finis avec ça en disant une église missionnelle. Et vous aurez les documents pour relire, revenir dessus. Une église missionnelle, c'est pas juste on a envie d'être une église missionnelle. Ouais, ça fait sympa, c'est cool. Non, une église missionnelle, elle a un socle. Et une église missionnelle, c'est un changement de comportement qui implique tout le monde. Les responsables, les pas responsables. Parce qu'on est tous responsables devant Dieu. Ça implique tout le monde. Et il faut du bon sens. Et en général, quand une église est secouée, c'est juste le moment où il faut faire pause devant Dieu, silent, silence, et d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Et il y a des choses à changer, parce que nos églises évangéliques sont plutôt franchisées. On a des églises évangéliques qui ressemblent aux autres. Dieu veut qu'on ait maintenant des églises qui ressemblent aux gens qui sont sur place. Et donc ça ne peut pas me ressembler à moi, puisque je ne suis pas dans votre église. Si j'étais dans votre église serait différente. Parce que je suis encombrant. Le plus calme, le plus introverti devrait influencer autant l'église que celui qui est le plus exubérant et le plus extraverti. Nous sommes tous serviteurs, tous sacrificateurs, donc au service de Dieu et des autres, mais nous sommes aussi tous rois, et donc nous gouvernons sur une partie de quelque chose de notre vie, et ça commence par l'Église, parce que l'Église est le lieu d'entraînement des chrétiens pour mieux agir dans la société. Si on veut que tous les chrétiens agissent dans la société, il faut que tous les chrétiens puissent agir dans l'Église, à un moment ou un autre, peut-être pas le dimanche matin, comme vous êtes là, mais en tout cas dans des groupes qui permettent de le faire. Amen. Seigneur, je parle avec mes mots et avec mes limites, et avec la limite du temps aussi, mais toi, tu sais nous parler, tu sais agir dans nos cœurs, dans nos esprits. Tu as une capacité d'aller chercher chez chacun de nous ce qu'on a besoin exactement là où on en est, chacun, individuellement. Et c'est cette grâce-là que tu as de nous toucher individuellement, de nous sauver individuellement, mais de rendre notre vie spirituelle collective. On dépend des autres, c'est comme ça que tu as inventé l'Église. Tu as voulu que le salut soit individuel, mes opinions restent les miennes, mais le travail est collectif. La mutualisation est là, la coopération est demandée de ta part, parce que c'est ainsi que le royaume de Dieu est fait. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides à agir et à avancer. Je prie pour cette Église qu'elle soit richement bénie et qu'elle trouve les solutions en interne de son propre chemin à prendre. Je prie que cette Église soit relevée dans les défis qu'elle a, et je prie que cette Église soit apaisée dans les conflits qui sont encore là. Je prie, Seigneur, que ta gloire soit manifestée. Amen.